Contre la dérive logistique et autoroutière, la sixième émission de la série « Quand la Terre se soulève », une émission de Radio Zinzine. Fin février 2024, nous nous sommes retrouvés de nouveau à plus de 200 pour un interlude des soulèvements de la Terre, cette fois-ci en Bretagne. Les interludes sont des rencontres organisées tous les 6 mois pour faire le bilan de la saison des mobilisations qui vient de terminer et définir les actions qui seront menées dans les 6 mois à venir. Dans cette émission, ainsi que dans la prochaine, nous vous présenterons toutes ces mobilisations prévues entre mars et septembre 2024. Voilà, je me retrouve avec 4 personnes impliquées dans des luttes, dans des questions qui sont interconnectées. On va essayer de comprendre ça. Et c'est vraiment un peu l'empire de logistique, là, et complexe parce qu'il concerne autant les routes que des questions fluviales, enfin, voilà, avec des noms comme Green Dock. Green Dock, ça a l'air super, très écolo. Donc, qu'est-ce que c'est Green Dock? C'est où et de quoi s'agit-il?
Alors, Green Dock, c'est un gros projet d'un méga entrepôt, en gros, en région parisienne, plus précisément dans le port de Gennevilliers, donc qui n'est pas vraiment un port, en fait, mais qui est un gros espace logistique dans la banlieue nord-ouest de Paris. Et il y a un projet sur une grosse friche industrielle d'installation d'un énorme entrepôt, avec comme porteur de projet Aropa et comme promoteur Goodman. Et ça, un entrepôt, enfin, en termes de dimension, on parle de 600 mètres de long, et de près de 35 mètres de haut. Donc, je ne sais pas si vous voyez à peu près les dimensions. Et on se mobilise contre ce projet de continuation, de mettre des entrepôts et du coup d'alimentation de tout l'empire logistique contre lequel on lutte, et notamment dans des villes denses et à certains endroits des villes en plus qui sont bien choisies. C'est sur la Seine, donc le port de Gennevilliers est dans la Seine, c'est dans un méandre. L'entrepôt est encore plus précisément vraiment sur la berge, au niveau de la Seine, en face d'une zone Natura 2000, réserve intégrale pour la protection de certaines espèces d'oiseaux. Et encore en face, il y a des berges à Épinay-sur-Seine qui sont très végétalisées.
Donc ça veut dire qu'il y a une partie qui est fluviale, mais j'imagine qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de camions, parce qu'après, ça est distribué dans toute la région parisienne, j'imagine, c'est ça ?
C'est ça, en fait, un des arguments du promoteur immobilier Goodman, c'est de dire que Green Dock serait un entrepôt green, donc écolo, parce qu'il créerait ou s'appuierait sur une partie de trafic fluvial pour transporter les marchandises. Mais cette trafic fluvial fonctionnerait à hauteur de 15% grand maximum. Les chiffres seraient à revoir un peu à la baisse. Et si on prend le chiffre dans l'autre sens, 15% de trafic fluvial, ça veut dire 85% de trafic routier. Et on sait en fait que les entrepôts sont majoritairement approvisionnés par du trafic routier, et donc des flux de camions sans arrêt.
Et juste pour imaginer la zone, est-ce que c'est aussi une zone habitée? Ou c'est, enfin, il y a des riverains, des personnes, des populations qui vont logiquement subir tous ces camions. Je ne sais pas combien de camions, vous avez peut-être pu estimer combien de camions ça fait par jour, etc.
Il y a des chiffres qui sont annoncés pour les camions. Donc, on annonce plus de 1200 rotations de camions. Qu'une rotation, c'est un trajet parcouru par le camion et en même temps qui permet de le recharger. Donc, ça ferait vraiment du trafic permanent, jour et nuit, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et alors, dans le port de Gennevilliers, qui, du coup, je le rappelle, est une zone logistique, évidemment, il n'y a pas d'habitants. Par contre, ça touche directement les habitants qui habitent en face, donc les habitants des berges d'Épinay-sur-Seine, mais aussi de l'île Saint-Denis, derrière la zone Natura 2000. Et en fait, l'entrepôt, il ne va pas gêner directement les habitants de la ville de Gennevilliers, qui est du coup la première ville concernée, puisque les habitants de Gennevilliers, en fait, ils n'habitent pas du tout dans le port, c'est une zone logistique. Par contre, ça viendrait toucher évidemment les gens qui travailleraient pour cet entrepôt et les travailleurs de la logistique directement.
Et si je peux compléter, ouais, enfin, plus largement, du coup, c'est encore un énorme projet d'artificialisation dans les régions qui sont touchées par les plus gros taux de pollution de l'air, et aussi par les effets d'îlots de chaleur urbains dont on parle peu et qui sont aujourd'hui des gros enjeux sur les questions d'écologie urbaine. Et ces deux éléments, en fait, du coup, un projet comme ça concerne évidemment toute une région qui est la banlieue nord de Paris, en fait, et voilà.
Je ne sais pas si à ce moment-là, on devrait comprendre la complexité de tout ça, parce que ce que j'ai écouté dans votre présentation, c'est que c'est lié à la question des routes, peut-être même des autoroutes nécessaires pour arriver jusqu'à ce fameux Green Dock, mais on a parlé aussi d'un canal, enfin plein de choses. Donc.
Du coup, pour préciser un petit peu le maillage routier dans lequel l'entrepôt s'inscrirait, il serait directement desservi par deux projets autoroutiers qui essayent de s'implanter en Ile-de-France. Il y a l'A104 bis du côté de l'Ouest et un projet qui s'appelle le boulevard interparisien dans l'Oise, donc le BIP. Et en fait, ces deux projets autoroutiers viendraient directement se lier à Green Dock. Mais par ailleurs, il y a déjà des routes existantes qui permettent de desservir le port de Gennevilliers qui est en activité permanente. Il me semble que c'est l'A86 et l'A15. Et au-delà des routes, il faut comprendre que Green Dock serait un des points clés d'un grand projet un peu gigantesque qui s'appelle l'Axe Seine et qui est porté par une structure qui s'appelle AROPA, AROPA pour Le Havre-Rouen-Paris, qui a pour ambition un peu délirante de créer donc un Axe Seine, un grand, je reprends leurs mots, port fluvio-maritime en France, qui irait du Havre de Rouen jusqu'à Paris. Mais en fait, ce serait juste une manière de créer un corridor logistique de plus allant du Havre jusqu'en Ile-de-France pour continuer d'alimenter la métropole. Donc voilà, ça s'inscrit dans cette logique-là d'Axe Seine qui est promue et développée par AROPA.
Et toi, tu as parlé d'un canal qui va plutôt, si j'ai bien compris, vers l'est, plutôt, enfin nord-est, je sais pas quoi, ou nord. Il s'agit de quoi, le canal Seine-Nord?
Alors le canal Seine-Nord-Europe, c'est donc une liaison fluviale de 107 km. Ça part de Aubin-Cholobac, qui est situé à côté de Cambrai, jusqu'à Compiègne. Et en fait, c'est un maillon d'un projet plus grand qui vise à relier le port de Paris à les ports du Nord, de Rotterdam et d'Anvers. Et donc, ce projet est en fait une autoroute fluviale qui est en fait d'agrandir le canal déjà existant, qui est aujourd'hui sous-utilisé, pour pouvoir faire passer des paquebots à grand gabarit qui peut contenir 3 étages de conteneurs. Mais en fait, les travaux du coup que ça demande sont immenses, parce qu'en fait, on pense à agrandir le canal, mais il y a aussi la construction de ports, de méga bassines pour alimenter le canal. Aujourd'hui, on parle d'une méga bassine de 14 millions de mètres cubes, mais même potentiellement, enfin dans les avis des institutions environnementales également, on parle que potentiellement ça ne suffira pas, même une deuxième méga bassine. Donc en fait, il y a énormément d'infrastructures qui vont avec ce projet, et c'est à une échelle énorme et
Oui, pour préciser un peu et pour donner une idée de grandeur de ce projet vraiment pharaonique, 14 millions de mètres cubes pour une bassine, ça représente 20 fois la bassine de Sainte-Soline approximativement. C'est donc un canal qui fait 107 km de long. On est largement sur plus de 250 mètres de large sur l'emprise, donc on a vraiment une emprise au sol de plus de 20 km carrés. Et puis là où franchement on atteint des valeurs ahurissantes, c'est sur le volume de terre déplacée. Pour donner une idée qui peut parler à beaucoup de monde, si on imaginait un cube dont le côté serait à la hauteur de la tour Eiffel, ça ferait déjà un gros cube, mais c'est pas encore assez. On est à 75 millions de mètres cubes. C'est juste pharaonique. Le projet du Grand Paris, c'est 35 millions de mètres cubes. Là, voilà, on est donc sur des gestions de gravats aussi qui vont être dramatiques sur des terres qui sont agricoles et fertiles, avec déjà les gravats du Grand Paris à gérer. Et en fait, tout cet élément-là, simplement pour compenser, dans cette idée de greenwashing, une partie du transport routier de l'autoroute A1, qui est l'autoroute la plus fréquentée de France, mais dans une mesure finalement très ridicule, puisqu'on sait très bien qu'un camion, ça ne sert pas à faire des grands trajets, ça sert à livrer d'un magasin à un centre de distribution, sur ce genre de choses. Et nulle part en Europe, le fluvial n'a remplacé le routier. C'est deux transports différents. On nous parle d'un côté de porte-conteneurs, mais on sait très bien que ça va surtout concerner des bateaux vraquiers, par exemple pour tout ce qui est céréales. C'est surtout ça la dimension. Et outre la dimension du canal en lui-même, qui est déjà sur sa construction assez fou, il y a cette dimension empire logistique de l'autre côté. C'est aller vers plus de mondialisation, vers plus d'échanges. On parle beaucoup du problème des agriculteurs en ce moment. Sur les 17 millions de tonnes qui sont produites en France de blé, il y en a la moitié qui partent à l'exportation. Ce genre de canaux, ça sert à ça. Ça sert à exporter des produits dont on dit manquer ou être complexes à gérer en France, pour importer des produits manufacturés de l'autre bout du monde. C'est ça le concept de l'empire logistique. C'est cet esprit de mondialisation et d'accaparement des terres, des sols et des cultures.
On va parler de ce que vous voulez mettre en place dans la saison 7, mais en fait, si j'ai bien compris, vous êtes un peu dans différentes, peut-être, collectifs, différentes associations, et en quelque sorte, il y a une espèce de, je sais pas, fédération ou collectif de collectifs, vous bossez ensemble.
Pour la mobilisation contre Green Dock, maintenant, on a une grosse coordination d'organisation à la fois dans les soulèvements de la Terre, mais aussi avec d'autres collectifs écologistes. Et on est évidemment en lien avec les collectifs qui luttent contre le canal Seine-Nord-Europe. Pendant la saison 7 des soulèvements de la Terre, il y aura une action d'ampleur nationale contre Green Dock et logiquement, on fera de la place et on invitera les camarades du canal Seine-Nord-Europe à exposer leur lutte et à montrer en quoi tout est en lien.
Et donc cette action, ça a l'air intéressant, enfin ça va être un peu fluvial, c'est bien compris, mais peut-être pas que. Est-ce que vous pouvez déjà un peu décrire qu'est-ce que vous proposez d'organiser ou c'est trop tôt?
Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a déjà des dates qui sont fixées pour la mobilisation, pour parler de Green Dock en tout cas en premier lieu, autour du 24, 25, 26 mai. Et que ce sera, enfin, l'objectif, c'est de fédérer autour de la question logistique avec l'exemple précis de Green Dock, avec des festivités, dans tous les cas, des festivités pirates. On parle de piraterie, et voilà.
Des surprises à découvrir.
Avec des ricochets un petit peu partout, notamment dans les Hauts-de-France. Voilà. La piraterie, ça se limite pas à un point.
Ok, c'est le genre de mondialisation qu'on aime. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez rajouter?
Moi, j'aimerais peut-être rajouter en guise de conclusion. En fait, là, on parle de l'empire logistique. C'est pas un truc qui est forcément facile à appréhender. Mais l'empire logistique, c'est tout un complexe qui comprend en fait une dimension de circulation et une dimension de stockage. Il y a vraiment ces deux choses en parallèle. Et ces deux dimensions, elles permettent tout un processus de mondialisation, de surproduction et de surconsommation, parce qu'on le sait, ça va ensemble et c'est pas à différencier. Et ça passe par ce stockage et cette circulation. Et y a toujours un accroissement de ça en allant dans le stockage. Puis du coup, on fait circuler, puis du coup, on stocke, etc. Et un accroissement de ça, vraiment au détriment du vivant et des personnes. Et on a typiquement ici deux exemples, et c'est pour ça que c'est intrinsèquement lié, même si c'est parfois pour des personnes difficiles à percevoir, c'est que Green Dock, c'est l'exemple du stockage. On va continuer dans l'optique du stockage, dans des territoires qui sont servants, on ne va pas se mentir, qui sont servants, qui servent à ça. On peut aller là-bas au détriment d'une réserve naturelle, au détriment des quartiers les plus denses de France probablement. Et en parallèle, on a le canal Seine-Nord qui, lui, est purement dans la circulation, enfin, abusive, et c'est vraiment ces deux biais qui, et en fait ces deux biais prennent des voies complètement multiformes. On aime bien parler d'hydre logistique parce que ça va dans tous les sens, il y a des routes, il y a des fleuves, il y a des entrepôts, il y a plein de choses, ça prend plein de formes, et c'est pour ça que c'est difficile à appréhender, mais il faut bien voir en parallèle la circulation et le stockage et que tout est en lien.
Et pour terminer, donc, les camarades ont souligné à quel point l'empire logistique étendait ses tentacules. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces infrastructures-là, ce sont les infrastructures du capitalisme moderne tel qu'on le connaît. Ce sont elles qui le servent et qui le rendent existant. Et du coup, ça, c'est un peu le côté monstrueux. Mais si on veut s'attaquer à l'empire logistique, il faut bien s'attaquer à ses pattes ou à ses tentacules. Et ce qu'on aimerait dire comme mot de la fin, et aussi dans la perspective de la lutte, c'est que cet empire, il a des failles, et on le voit très bien, les modes de blocage les plus saisissants, les plus spectaculaires, les plus efficaces, c'est bien de bloquer les flux logistiques, bloquer des autoroutes, bloquer des ronds-points. C'est ce qui a été fait pendant les mouvements des Gilets jaunes et pendant les blocages des agriculteurs récents. Donc, entravons les flux.
Ça promet. Merci. Bonjour, voilà, vous êtes tous les trois engagés dans la lutte contre l'A69 entre Toulouse et Castres, où il y a beaucoup de choses qui se passent ces derniers temps, beaucoup de répression, beaucoup de destruction, etc. Et je crois que tous les trois, vous êtes en tout cas aussi peut-être impliqués dans le suite des ZAD, en fait. Il y a les ZAD, mais dans différents lieux. Enfin, c'est assez mouvant, semble-t-il. Peut-être vous pourrez, juste pour ceux qui ne connaissent pas assez cette lutte, rappeler quand même rapidement ce dont il s'agit et depuis quand cette lutte dure.
Ok, bah du coup, il y a un projet d'autoroute qui relierait Toulouse à Castres, qui date d'il y a plus de 30 ans, porté notamment par Pierre Fabre. C'est un labo pharmaceutique, mais à la base, c'était Monsieur Pierre Fabre, le bienfaiteur du Tarn, comme avait dit notre ancien préfet du Tarn. Et du coup, maintenant, ce projet, il prend vie, notamment porté par le concessionnaire NGE, et aussi pas mal par les élus locaux. Enfin voilà, il y a beaucoup d'enjeux financiers dans ce truc-là.
Donc c'est une autoroute qui fait 55 km, qui est une aberration sociale, aussi bien qu'environnementale, sous le prétexte de désenclaver Castres. En fait, un processus de métropolisation qui est en jeu. Et cette cible va relier Toulouse à Castres en récupérant des tronçons de national existants, ce qui concrètement, pour une personne qui ne souhaite pas prendre un péage, qui coûtera 20 euros, rallongera le trajet d'une trentaine de minutes.
Donc, ces derniers temps, c'était très mouvementé, peut-être quand même raconté, je crois que c'est peut-être vers septembre, je ne sais plus. En tout cas, il y a un début de travaux assez, j'imagine, assez terrible pour vous, assez brutaux, quoi, de terrassement, de défrichement, etc.
Et là, ouais, c'est peut-être depuis septembre l'année dernière. Là, les choses sont vraiment empirées parce que c'était la reprise des coupes d'arbres. Et ils avaient le droit le 1er ou le 15. Et en fait, vraiment à minuit une, il y avait déjà des écureuils en place, des personnes dans les arbres. Et à minuit une, ils ont commencé à couper les arbres après avoir délogé tout le monde. Du coup, ça s'est vraiment intensifié.
Donc, effectivement, le début des travaux concrètement, c'était en janvier 2023, avec des premiers abattages en février-mars. Il y a deux phases d'abattage autorisées, qui sont celles dans lesquelles on est maintenant, du 15 février au 31 mars, et entre le 1er septembre et le 15 novembre. Et simultanément, pas mal du coup de travaux de terrassement et quelques gros œuvres qui ont commencé, donc des ponts, des choses comme ça, mais juste des bases. Mais après, l'essentiel du tracé, la terre reste à nu et n'a pas été recouverte de bitume.
On ne va pas en revenir sur toutes ces histoires parce que ça va être trop long, mais il y avait une série de grandes manifestations, notamment juste après Sainte-Soline, donc en avril. Hein, c'était vraiment avec beaucoup de monde. Et maintenant, il y a toute cette phase nouvelle, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, la création de. Il y a les écureuils dans les arbres, mais il y a aussi des ZAD, vous occupez certaines zones, alors comment ça se passe?
Si on parle de la dynamique écureuil, concrètement, la dynamique écureuil, c'était déjà une dynamique d'occupation qui était faite dès février 2023, où il y a eu une dizaine de campings successifs dans les arbres, avec de la présence au sol. Et une certaine forme de présence au sol. Et effectivement, la présence au sol s'est prolongée pendant l'hiver, notamment sur le site de la Crème Arbre, qui a été occupé le 12 novembre, et à partir de là a été progressivement rejoint et a lancé le mot de ZAD de manière explicite à partir du 2 janvier de cette année, et ce qui a encore mené à plus de gens d'arriver. Mais ça s'articule aussi avec des bases arrière plus solides et sur le labo qui sont des lieux légaux. Il y en a trois à ce jour et qui s'articulent de manière forte avec la dynamique du labo des terres.
Et moi, je parlais du labo des terres. Du coup, c'est un collectif qui s'est créé juste après, en fait, nos macadam, du coup, la manif du 21-22 octobre. Et là, on s'est retrouvé plusieurs dizaines de personnes à vouloir rester sur le lieu, dans le Tarn. On nous a prêté un espace privé, et là, on a commencé à s'organiser vraiment d'une manière autant que possible, à féministe, autogérée, anticapitaliste. Et on a réalisé de nombreux rassemblements. On était vraiment on aidait autant que possible les écureuils qui étaient sur 2-3 sites à ce moment-là. On a fait des manifestations, on a co-organisé avec l'Interorga Bah, c'est important aussi de rappeler que du coup, la lutte contre la 69, c'est, il y a bah, historiquement le collectif La Voix est libre. Il y a aussi Extinction Rébellion, les soulèvements de la terre, le GNSA et le Labo des Terres et maintenant la Crémarbre. Et du coup, on a co-organisé ensemble aussi le grand carnaval des Mascons, la Mafia 69. Et ben, actuellement, on a deux lieux ressources, du coup, sur des espaces privés, hein, du coup, sécurisés qui ne subissent pas de répression. Et dans lesquels ben, il y a beaucoup d'échanges entre la Crémarbre et le Labo avec les autres collectifs.
Peut-être continuer sur la dynamique ZAD et comment elle s'est mise en place, et, enfin ce qu'elle représente aussi. Donc effectivement, comme je disais, ça a appuyé sur tentative de mise en pratique de pratiques autogestionnaires et anarchistes en local sur le site, jusqu'à du coup cette décision au consensus par les habitantes du site de faire cet appel à la ZAD pour massifier, ramener du monde et porter les termes, notamment dans l'espèce de bah, de rapport de forte défiance qu'a le gouvernement vis-à-vis de ce terme-là et de cette stratégie d'occupation et cette façon de se mettre en face des projets climaticides et tous les projets destructeurs de manière générale en occupant les terres et en les défendant, en habitant dessus collectivement et cherchant à créer des alternatives localement et du coup avec toutes ces aspirations décoloniales et d'autogestion. Du coup, sur le site de la Créma où les gens sont arrivés au fil de l'eau pendant le mois de janvier, on avait une bonne rotation avec plusieurs centaines de personnes qui gravitaient autour du site. Et là, on a aussi un fort ancrage local avec un fort lien avec les habitants autour sur la commune de Saïs et dans les communes alentours. Et donc, c'est là qu'on a commencé à sentir la pression policière et la puissance de la répression.
Quoi que disent les autorités et les promoteurs, ben, il y avait des sondages apparemment récemment, mais qui montrent clairement qu'il y a une majorité de la population qui est opposée à ce projet. Et donc, en fait, vous sentez qu'il y a une solidarité ou enfin un soutien de, peut-être pas toutes, mais en tout cas une partie des habitants du coin qui réagissent, je ne sais pas comment ils réagissent, parce que c'est comme ils n'ont pas forcément l'habitude de ZAD et d'occupation comme ça. Comment ça se passe?
Il y a énormément de soutien. On nous apporte énormément de nourriture. Il y a plein de dons en tout genre, des vêtements chauds. Enfin, on est en très bon contact avec certains agriculteurs qui ont énormément de terres menacées, qui nous prêtent des terres, qui nous aident énormément dans la vie de tous les jours. Il y a des personnes qui viennent de loin aussi ou qui nous font des dons, qui nous envoient des choses. Mais les localos, clairement, il y a un gros soutien après sur Castres même. Ce qu'il faut savoir, c'est que Pierre Fabre, c'est le premier employeur dans le Tarn. Il a mis la menace typique de ben, si en fait j'ai pas mon autoroute, je vais être obligé de délocaliser et du coup ça va créer du chômage. Du coup il y a énormément d'employés de Pierre Fabre qui sont pour l'autoroute. Plus on s'approche de Castres, plus les gens sont pour l'autoroute. Par contre, ce qu'on a vu sur les derniers mois, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui avant étaient pour l'autoroute et qui maintenant en fait changent totalement d'avis parce que en fait elles se rendent compte que bah, il va y avoir deux usines à bitume qui sont en train d'être construites à moins de 10 km de 4000 enfants qui habitent à côté et que du coup il y a énormément. On observe, il y a eu la création de plus de 15 collectifs de sans bitume sur les derniers mois et qui petit à petit rejoignent la lutte aussi et s'investissent.
Là, dernièrement, il y a eu le CGT Pierre Fabre qui a tenu quand même une position plutôt contre cette autoroute, quoi. Parce que, en fait, les personnes qui travaillent à Pierre Fabre se rendent compte que cette autoroute, ça n'a pas changé grand-chose dans leur emploi. Voilà.
Et en local, mon ressenti, en tout cas, c'est que très, très peu de gens qui sont franchement pour l'autoroute. L'essentiel des gens ont soit peur des forts réseaux locaux d'influence qui sont en faveur de cette autoroute, qui sont des réseaux politiques et économiques, industriels, des industriels locaux, plusieurs au-delà de Pierre Fabre, ou soit plus apathiques, pensant que le projet est acté et qu'il n'y a plus rien à faire. Et donc c'est tout un travail de mobilisation politique qui est en jeu et de démontrer que il est possible de lutter contre des forces qui sont bien plus grandes.
Mais je veux dire, la peur, ça doit être aussi quand même un peu provoqué par la brutalité de la répression ces derniers temps. Je veux dire, il faut quand même dire deux mots avant de continuer. On va parler de ce que vous voulez faire le prochain mois pour poursuivre ce combat, en fait. Mais je veux dire, là, il y a même le rapporteur spécial de l'ONU sur les défenseurs de l'environnement, en gros, Michel Force, qui est allé parce qu'il sentait que, il était inquiet par quelque part ce qu'il a pu entendre. Apparemment, c'est sa propre initiative qui est venue. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire là, c'est apparemment, il y a vraiment des méthodes assez particulières qui étaient utilisées par la police. Enfin, j'ai entendu différents exemples autour des arbres avec des méthodes de rendre vraiment impossible la vie des écureuils, par exemple.
Il y a à peu près une soixantaine de personnes qui a des procédures judiciaires actuellement en cours par rapport à la 69. Donc ça implique des procès tous les mois. Il y a beaucoup de contrôles judiciaires qui du coup excluent les personnes du Tarn, du territoire, parfois de certaines villes, mais c'est un peu plus rare aussi. Et qui du coup les excluent aussi de la lutte momentanément, quoi, ou les mettre en difficulté à ce niveau-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de violences tous les jours répétées qui sont très physiques, avec beaucoup d'humiliation, des fois de passage à tabac, et des violences psychologiques qui sont récurrentes, avec une présence policière tout le temps, vraiment un truc de jamais pouvoir redescendre aussi, et d'épuisement. Enfin, et par contre, du coup, ce qui se met en place, c'est qu'il y a des gens qui s'organisent quotidiennement pour être là, que ce soit des équipes de médics ou psy, de soutien psy. Et ça crée ça à côté, un gros soutien. Et même des gens locaux, j'ai l'impression qu'il y a un gros relais pour essayer de soutenir, qu'il y a vraiment une toile qui se tisse pour soutenir tout ça.
Ouais, moi j'aimerais revenir vraiment sur la violence psychologique qui est là depuis le 20 janvier et la première tentative d'expulsion. Les flics ont récupéré toutes les affaires et les ont enterrées dans le champ juste à côté à coups de pelleteuse. Et le lendemain, on a passé énormément de temps à juste déterrer les affaires, à essayer de sauver ce qui était possible et à trier ils ont fait une pollution chimique des sols immesurable. Et après, depuis, je saurais même pas dire quand, mais il y a une fois, c'était en 10 jours, on s'est rendu compte qu'il y a eu 2 jours où il n'y a pas eu de lacrymo qui ont été tirés. Enfin, des fois, c'est juste, avant de partir, ils jetaient leur dernière lacrymo en plein dans la forêt où les écureuils étaient. On parle aussi d'une copaine qui a subi des violences sexistes et sexuelles par les keufs. Récemment, il y a eu 6 personnes qui se sont faites interpeller d'un coup. Pour 2 d'entre elles, le seul fait qu'on leur reproche à la fin, c'est refus de signalétique, qui a pris 48 heures de garde à vue, ce qui montre vraiment la violence des méthodes employées.
C'est un rapport d'intimidation, même de terreur militaire, qui est imposé aux personnes qui habitent sur place, avec l'utilisation de régulière de feux sur 4 ou 5 interventions, voire plus, j'ai du mal à compter, j'avoue. Des feux ont été allumés en lisière de forêt, des incendies de pneus et de matériaux de construction qu'on avait mis de côté pour construire des cabanes, et fait d'une manière qui enfumait les personnes qui vivaient dans la forêt et les écureuils. Ça, avec aussi l'utilisation extrêmement répétée de lacrymo, l'utilisation de grenades assourdissantes et de grenades des encerclantes dans des cadres très contraints avec des personnes les uns au-dessus des autres. Une telle diversité de terreur et d'intimidation et l'utilisation d'hélicos tous les jours, c'était vraiment intense pendant longtemps, et ça l'est encore là en ce moment. Là, il y a une centaine de brigades mobiles et de CRS qui encerclent et assiègent le site sur lequel on était à l'époque, donc la crème arbre, et dans lequel il y a encore des écureuils dans les arbres, et qui sont en train d'être sortis d'une manière extrêmement violente. Et donc c'est toute évidence que le rapporteur spécial de l'ONU est venu pour un petit peu mieux comprendre ce qui se passait et essayer de démêler tout ça. Mais bon, ça continue en fait, c'est encore en cours là tout de suite. Et une pensée aux personnes qui sont sur place.
Nous, au dernier événement, là, nos macadam, du coup, il y a eu l'utilisation du feu avec des grenades lancées, clairement sur des champs secs, et qui ont mis le feu. Et en fait, je trouve que c'est vraiment maintenant, on est même plus surpris des méthodes utilisées. Enfin, il y a une espèce de cap de violence qui est quasiment constant sur les actions militantes maintenant, là, j'ai l'impression. Et par exemple, quand on voit des médics qui se font taper à la matraque télescopique, bah, c'est hyper violent et. Et je trouve que ça montre bien un geste, bien une intention, quoi.
Oui, oui, c'est les mêmes méthodes qui ont été utilisées contre les camps de migrants à Calais. C'est incendier des bâches, des cabanes, détruire toutes les affaires personnelles et enfin, faire une espèce de politique de la terre brûlée contre des personnes qui n'ont pas les recours juridiques pour se défendre.
Confronté à cette situation-là, vous prévoyez quoi? Là, on est en train de... On a validé la saison 7 et il y a des choses qui vont se passer chez vous. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire déjà maintenant? Peut-être au moins les dates et éventuellement s'il y a des choses qu'on peut déjà expliquer, de quoi il s'agit.
Avant ça, on peut peut-être commencer par ce qui va se passer dans la foulée, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, parce que l'occupation à la ZAD continue et elle n'est pas prête de se finir. Bon, malgré tout ce listing de répression qu'on a pu faire, on conserve la joie avec nous et on reste déterminé avec l'envie de continuer à occuper le tracé et à continuer à créer des synergies localement, à s'ancrer. Et donc, dans la foulée de l'expulsion de la Crème Arbre, le site où on était jusque-là, il y a eu l'installation d'une base arrière juste à côté, sur un champ prêté par un agri-allié, où il y a des barnums, une cuisine, enfin tout ce qu'il faut pour accueillir du monde qui a été monté. Cette fois-ci, du coup, dans un cadre qui est safe et où vous êtes tous invités à venir.
Alors, juste pour comprendre, c'est-à-dire parce que c'est un terrain privé prêté, en fait, les gendarmes, enfin les flics, ils ont pas la possibilité d'y aller ou quand même?
Normalement, ils harcèlent un petit peu au bord, mais ils n'ont pas la possibilité de rentrer hors perquisition.
Et hors, s'ils constatent une infraction directe, et c'est comme ça qu'ils ont arrêté quelques copains, copaines.
Donc le lieu d'avant, la forêt, était sur le tracé, et il y a un deuxième lieu avec des arbres, du coup, la Calarbre, qui est à 45 minutes de marche. Accessible à pied également sur la commune de Saïs, qui a été occupée la semaine dernière. De toute façon, le tracé est long, il y a de nombreux lieux d'occupation, et comme on commence à être de plus en plus nombreuses et de plus en plus aussi articulées avec toutes les personnes en lutte localement, qu'il s'agisse de la Confédération paysanne, qu'il s'agisse des habitantes de tout le long du tracé, il y a des multitudes de possibles qui se dessinent, et pour essayer de s'organiser collectivement et continuer à créer des belles choses malgré ce climat ce climat d'agression.
Mais dans la réunion, dans la présentation, si je ne me trompe pas, vous avez plus ou moins dit que, en fait, tout le tracé, c'est le ZAD. Enfin, ça peut se faire partout.
Et là, c'est vraiment notre espoir. Les prochains mois vont être encore remplis de belles surprises. Et il va y avoir, pour le moment, on a ouvert un nouveau lieu d'occupation ce mercredi. On espère qu'il va y en avoir plein d'autres sur les 53 km de ZAD et avec plein de bases arrières, avec la route est encore longue.
Avant que cette A69 ne traverse les ZAD.
Et du coup, d'ici là aussi, on va renforcer les liens avec les agriculteurs locaux, notamment avec tout ce qui se passe sur les mouvements d'école actuels. Et du coup, à consolider nos liens existants avec la Confédération paysanne. Et ça, c'est un gros enjeu. Et aussi de consolider tout l'autour de la ZAD aussi, parce que la 69, il y a quand même aussi plein d'autres trucs qui se passent actuellement avec les collectifs sans bitume. des parents d'élèves. Et c'est pas que ça, il y a vraiment pas mal de choses, quoi. Donc la ZAD, c'est une forme avec, mélangée avec plein d'autres choses, quoi. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à venir les mois qui viennent.
Et donc, pour réinsister sur ce rapport avec, le mouvement agricole, là, il y a une forte question qui est en jeu, qui est la question de l'accaparement des terres et de terres agricoles. Le tracé, c'est 420 hectares, duquel il y a 316 hectares de terres agricoles et qui vont être bétonnées, enfin, qui seraient bétonnées dans la notion, là, l'autoroute passe. Et donc, il y a tout un mouvement en création de lutte contre le fait que ça se passe. Il y a aussi des paysans sans bitume. Et donc, il y a tout ce mouvement de sans bitume qui est contre les usines à bitume qui ont déjà fait perdre des accréditations bio à des agris qui sont très près d'écoles, des habitations et des gens. Toute cette dynamique croisée et articulée et composée de luttes simultanées va être très riche dans les prochains mois, qui vont donc mener jusqu'à cette date posée en lien avec les soulèvements le 8-9 juin.
Et là, du coup, on va avoir une grande rencontre. Ça va être l'épisode 3 de nos événements nationaux dans cette lutte contre la 69. Et alors, on est encore en train de travailler sur la forme que cet événement va prendre. Ce qui est sûr, c'est que, en fait, on veut montrer encore une fois notre détermination et notre rage qu'on se projette. Mais on veut le faire absolument d'une manière variée, mais incluant, enfin, aussi d'une manière festive et joyeuse afin d'accompagner tous, en fait, dans cette lutte. On veut créer énormément de moments d'échange de savoir, de partage de connaissances, des moments en mixité, meuf, intersexe, non binaire, trans. Voilà, on est en train de construire ce moment, mais on invite vraiment tous celles qui soutiennent notre lutte à nous rejoindre les 8 et 9 juin. Le lieu sera encore à déterminer pour une belle aventure contre la 69.
Et donc dans cet événement et dans la suite de la lutte contre la 69, il y a la volonté forte d'affirmer et d'expérimenter dans la direction de l'autonomie matérielle et l'autonomie politique pour chercher à s'émanciper du système destructeur dans lequel on vit, aussi bien dans les relations entre humains et les façons de s'organiser localement que dans les manières de s'approvisionner, les manières de se réapproprier des savoirs et des savoir-faire, de construire des nouvelles modalités de vivre ensemble et de construction collective, quoi.
Le week-end du 1er juin, du coup une semaine avant notre week-end de lutte contre la 69, il y aura aussi une lutte contre les gravières en Ariège, qui en fait, ces gravières-là servent au final à la construction de l'autoroute. Du coup, on invite vraiment tout le monde en fait à passer une semaine de vacances dans le Tarn et à manifester contre les gravières et peut-être à faire différents rassemblements autour de l'usine à bitume ou sinon à nous rejoindre à la crème ou à la ZAD. Ou n'importe où, au hangar, partout, n'importe où on sera, pour nous rejoindre dans cette lutte contre la 69.
Et si je peux également ajouter que, comme on l'a dit, tous bienvenus à passer, ne serait-ce que quelques jours sur la ZAD, toutes les énergies sont bienvenues. Et c'est génial de voir des nouvelles têtes, de faire du lien avec les luttes partout en France.
On se dit au 8-9 juin sur le tracé de la 69. Venez nombreux et nombreuses.
Alors, Enora, nous avons déjà parlé de votre lutte contre une autoroute autour de Rouen. Mais là, on aimerait bien comprendre un peu cette coordination qui s'appelle la Déroute. Déroute, c'est un joli nom. Alors, raconte-nous ça.
Alors, la Déroute, donc c'est la Déroute Déroute, c'est une coalition qui est née en janvier 2022. On a fêté nos 2 ans là, il n'y a pas longtemps. C'est né d'une envie en fait de se parler entre collectifs qui partagent des luttes contre les projets routiers. Et les luttes contre les projets routiers ont énormément de points communs parce que, à ce que ce soit dans la construction administrative des dossiers, dans les acteurs, dans la manière dont les projets s'imposent au territoire et tout ça, en fait on vit beaucoup de choses communes, quoi. Donc la sauce a pris assez vite. Et donc aujourd'hui, on est une soixantaine de collectifs qui participons, alors chacune à son rythme, voilà, il y a des moments où les collectifs sont plus ou moins impliqués, mais en gros, ce qu'on porte ensemble, c'est une demande de moratoire sur tous les projets routiers, avec l'idée aussi de ne pas hiérarchiser les gros projets, les petits projets, mais vraiment plutôt d'avoir une approche et une lecture systémique du tout routier. C'est au service de quoi qu'on fait des routes, ça mène où les routes, donc voilà, en fait nous ce qu'on dit souvent c'est que c'est un peu les mères de toutes les batailles à venir, parce qu'une nouvelle route va amener une nouvelle zone d'activité commerciale, parfois de l'industrie, parfois un entrepôt logistique, enfin voilà, donc on essaye aussi de politiser la question des routes et d'en faire un sujet, on a une grosse partie de notre activité qui est à la fois du partage entre les collectifs, partage d'expériences, vous avez fait tel recours, comment vous avez fait, voilà, des trucs très pratiques pour les luttes, mais aussi une partie de plaidoyer plutôt nationale et médiatique pour visibiliser justement que ces routes, en fait, elles sont politiques, que c'est pas du tout les infrastructures neutres qu'on essaie de nous vendre tout le temps. Souvent, on dit, bon, bah voilà, la route, elle répond à un besoin. Bah, en fait, elle répond peut-être au besoin de faire rouler des camions dessus, mais c'est pas du tout des réponses à des besoins des populations. Et donc de montrer que tout ça c'est politique, c'est idéologique, et que c'est important aussi d'être ensemble quoi pour lutter contre tout ce système du tout routier. Quoi.
En quelque sorte des éléments clés de l'aménagement du territoire. En fait souvent les routes sont réfléchies dans des zones même peu développées, mais justement pour pouvoir les développer, non ?
Ouais, en fait c'est comme un peu la conquête du Far West quoi. tu construis une route et puis bah derrière tu peux construire c'est le front pionnier de l'urbanisation, de la métropolisation aussi, parce que en fait les routes elles ont à la fois un impact sur l'aménagement du territoire et elles permettent de construire derrière, mais aussi elles ont un impact sur nos vies parce qu'elles font pas gagner de temps, elles font gagner de la distance. Donc en fait si je peux prendre une nouvelle route pour aller à l'école ou pour aller à l'université ou pour aller me soigner, pour emmener mes enfants, pour travailler machin, bah je peux me mettre à habiter plus loin. Du coup, ça augmente la distance et ça sectorise aussi les activités de la vie. Donc, en fait, ça entretient une espèce de cercle où on est toujours obligé de se déplacer plus, avec l'illusion qu'on se déplace plus vite parce qu'on peut prendre la route, mais en fait, on se déplace pas plus vite, on se déplace juste plus loin. Et donc, ça entraîne aussi, voilà, évidemment, un phénomène de métropolisation où bah, la métropole étend un peu ses tentacules vers d'autres territoires pour les asservir de différentes manières, soit parce que c'est plus facile d'y construire des résidences secondaires, soit parce que c'est plus facile d'aller chercher telle ou telle ressource. La route, en fait, elle dessine beaucoup plus que ce qu'on pense, nos comportements et nos vies. Et là-dessus, du coup, je peux dire aussi que nous, avec la déroute, ce qu'on fait assez peu, c'est qu'on n'est pas sur une critique des comportements individuels, de dire « Ah, les gens, ils ne devraient pas prendre autant leur voiture et tout ». Enfin, le vrai problème des routes, c'est que ce sont des routes commerciales et que donc elles servent à faire passer des camions du nord au sud de l'Europe, de l'est à l'ouest. Et c'est pour ça aussi que ces projets, ils sont aussi subventionnés par l'État, ils sont très portés par des entreprises privées et tout ça. Donc la critique, elle est vraiment systémique et on essaye aussi de poser la question de pourquoi est-ce que ça prend autant de place, quoi? Ça occupe une place énorme, la voiture dans les villes, les routes sur les terres agricoles, enfin. Et pourquoi est-ce qu'on considère encore que c'est comme si c'était un truc acté et acquis et sur lequel on pouvait pas revenir? Et nous, on essaye de dire qu'il y a d'autres possibles, quoi.
Mais je vais dire, dans le cas de la 69 Castres-Toulouse, ça peut quand même beaucoup transformer la nature d'une ville comme Castres, qui devient en fait un bon lieu quasiment de Toulouse, et donc ça peut changer le caractère de ville, ouais. Par exemple.
Ouais, carrément, et ça du coup souvent c'est présenté comme un changement vertueux, enfin souvent les porteurs de projets vont dire « Ah bah c'est super, ça va désenclaver », donc ça c'est le gros truc qu'on entend tout le temps. Il y a trois arguments qui sont tout le temps répétés sur les projets routiers partout, la fluidification du trafic, le désenclavement et puis le développement économique. Mais donc le désenclavement, c'est vraiment hyper porté, quoi. Et en fait, ce qui se vérifie souvent, c'est que c'est plutôt ça dévitalise plutôt, quoi. Donc il y a des exemples comme ça de villes sur lesquelles on a apporté un contournement routier ou une liaison autoroutière et tout ça, et qui en fait se sont complètement vidées de leur vie locale au profit de la métropole, et au contraire des villes qui ont gardé une vie assez forte et enfin du coup une autonomie un peu plus importante parce qu'elles n'ont pas été reliées. Par exemple, il y a un collectif qui est membre de la coalition qui s'appelle la lutte des sucs, et eux ils parlent beaucoup de l'enclavement positif. Ils disent en fait, bah, nous on n'a pas envie d'être désenclavés, on a envie au contraire de pouvoir avoir des systèmes d'organisation locale quoi, qui puissent perdurer, qui puissent s'épanouir, du commerce local, de la production locale. Ils essayent de dire qu'en fait être enclavé c'est un mot hyper négatif, mais que en fait c'est aussi bien d'avoir une autonomie par rapport à la métropole et que c'est pas forcément du positif d'être relié à la capacité de prédation aussi de ces grands espaces urbains quoi.
Alors dans le cadre de la saison 7 des sous- Le monde de terre, toi tu as parlé de toute une idée que vous avez, et ça prolonge un peu ce que tu viens déjà de dire, c'est d'essayer de comprendre, si j'ai bien compris, le rôle des routes, et même des routes existantes, et pas juste s'attaquer à de nouveaux projets.
Ouais, exactement. Là, ce qu'on va proposer, et du coup, ce sera le week-end du 21, 22, 23 juin, c'est une mobilisation décentralisée, à laquelle on va inviter les gens à plutôt se mobiliser sur de l'existant. Pour l'instant, ces journées s'appellent l'après-route, mais on verra un peu comment ça évolue. Mais en gros, l'idée, c'est de ne pas aller se mobiliser contre des projets, mais c'est aussi de se poser la question de l'existant. Parce que souvent, y compris nous, dans nos collectifs, on va parfois avoir des arguments en disant « Oui, il faut mettre l'argent sur l'existant, il faut rénover les routes existantes, les sécuriser et tout ça. » En fait, ça, c'est déjà le cas. Et par ailleurs, cet entretien des routes, qui sont détruites par le passage des camions, hein, c'est pas le passage des voitures individuelles qui abîme à outrance les routes, ça représente 15 milliards d'euros annuels d'investissement d'argent public par les communes et les départements qui vont directement dans les poches de Bouygues-Vinci, et donc ça fait aussi tenir la filière du BTP. Bon bref, on pourrait être plus précis, mais en gros c'est quand même une quantité énorme d'argent public, d'énergie qui est mise dans l'entretien d'un réseau qui en fait peut aussi être questionné, parce qu'on a déjà un des réseaux routiers les plus denses d'Europe, qui fait circuler énormément de camions. On le voit dans la plupart des projets, même les tout petits projets, dans l'étude d'impact, parfois il y a carrément le nom d'une entreprise qui est mentionné, voilà, c'est pour la conserverie machin, le poulailler industriel bidule, et donc tout ça c'est aussi questionnable, quoi. Il n'y a pas que les projets, on voudrait s'inspirer un peu, enfin en tout cas on invite les gens à s'inspirer un peu des actions de Reclaim the Streets par exemple, c'est aussi se dire, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire de tout cet espace, quoi. Nous on ne dit pas, il faut couper toutes les et bon, mais par contre, posons-nous quand même la question, quoi. Est-ce que déjà le réseau existant, il n'est pas aussi... on ne pourrait pas imaginer d'autres choses qui dessinent nos paysages et notre aménagement du territoire que ces routes, quoi.
Deux mots sur Reclaim the Streets, ça veut dire quoi pour toi?
Ouais, Reclaim the Streets, pour nous, c'est un mouvement hyper inspirant parce que c'est un mouvement anglais dans les années 80-90 qui a permis d'abandonner un plan routier de centaines de routes et en fait qui était plein de créativité, quoi. Et moi, par exemple, j'ai souvenir de ce moment où ils sortent des bouches de métro dans la rue, ils provoquent un faux accident en théâtralisant le truc et à la fin, tout le monde fait une grosse stuff dans les rues pour dire en gros voilà, reprenons du pouvoir sur comment est-ce que nos villes sont dessinées, sur comment est-ce que nos paysages sont dessinés. Et bon bah ça, en l'occurrence chez eux ça a fonctionné, alors pour plein de raisons, mais il y avait aussi quelque chose de très festif et de très dans l'imaginaire que nous on a envie de porter aussi avec cette séquence de mobilisation décentralisée. Donc on invite les gens à aller sur des routes existantes. Ça peut être démontrer l'impact de cette route sur la santé, sur l'agriculture, sur plein de trucs, ou ça peut être pas du tout être dans l'idée des impacts ou quoi, mais juste se dire, en fait, il y a cette route qui est là, bah aujourd'hui, nous, on a envie de faire un pique-nique dessus, ou d'organiser un concert, ou de faire autre chose, quoi, que d'y passer en voiture, et ou d'y regarder passer les camions, quoi. Et donc, voilà, c'est un peu une invitation à aller s'amuser sur les infrastructures existantes pour questionner leur pertinence, étant donné qu'on porte aussi l'idée d'un changement de système économique. À quoi elles servent, ces routes, et à quoi elles pourraient servir autrement, quoi.
Depuis au moins un an, la dynamique des soulèvements de la terre a dépassé les frontières de la France vers la Belgique, la Suisse ou alors l'Italie. Alors bonjour, mes amis venus d'Italie, et pour plusieurs actions que vous avez amenées, expliquées ici lors de l'interlude des soulèvements de terre. Alors vous êtes tous les deux de Venise ou de la région de Venise, c'est ça?
Oui, on vient de Venise et on vient aussi de Trévise. Bon voilà, on est là pour présenter nos actions, une qui sera en avril et l'autre qui sera au début de septembre. Et voilà, oui, la première, ce sera à Venise, ce sera par rapport à la lutte contre les grands bateaux des croisières. Et voilà, ce sera l'occupation du Nil, parce que dans la ville de Venise, pendant 10 ans, on a mené la lutte contre les grands bateaux des croisières, parce qu'il y a un gros problème au niveau de la ville, touristification de la ville et au niveau socio-économique. Mais aussi maintenant, il y a une nouvelle phase de lutte, parce qu'on a gagné en 2021, on a eu la possibilité d'arrêter le passage des grands bateaux par la ville. Maintenant, l'administration veut les amener encore et veut les faire passer autour de la ville, donc dans la lagune, mais autour de la ville. Donc aussi, on parle de beaucoup de creuses et aussi de boues toxiques.
Pardon, beaucoup de creuses. Ils veulent creuser plus profondément la lagune, c'est ça?
Oui, exactement, pour faire des canals, pour faire passer ces grands bateaux. Et donc, nous, on veut absolument arrêter ça. Et donc, ce sera une lutte qui va intéresser toute la lagune. Et c'est pour ça que donc on va occuper cette île et aussi mener des batailles navales entre les petits bateaux des citoyens vénitiens et les grands bateaux. Et donc, ce sera très très visible. Et ça, ce sera à l'occasion de la biennale, de l'ouverture de la biennale d'art de Venise. On a la participation aussi de beaucoup de artistes internationaux aussi qui viennent de l'Indonésie et qui pendant 3 jours feront la construction de structures pour aussi participer dans cette bataille de naval et de faire des lances des structures dans l'eau pour arrêter et bloquer le passage.
C'est un l'air assez créatif, j'ai bien compris. Vous voulez aussi fabriquer des espèces de grands animaux ou des structures un peu comme ça et les amener sur cette île, c'est ça?
Oui, voilà. On va construire une manifestation aussi dans la ville, parce qu'on ne peut pas justement seulement abandonner la ville de Venise. Et il faut qu'on y aille avec des bateaux. Donc on va tout amener là-bas. Et c'est là-bas qu'on va faire nos actions, mais aussi dans la ville de Venise.
D'accord. Et puis je crois qu'il y avait un deuxième aspect. Toi, tu as parlé beaucoup de Cortina, donc qui est dans la montagne, je crois. Et c'est toute la question des infrastructures pour, je crois, pour les Jeux Olympiques, non? Un truc de bobsleigh, non?
Oui, en fait, en Italie, en 2026, il va y avoir les Jeux Olympiques d'hiver à Milan et à Cortina. Et à Cortina, dans les Dolomites, il y a eu un long débat politique avec... plusieurs fois, les projets n'étaient pas acceptés par le projet d'une piste de bobsleigh, justement à Cortina. Un projet très impactant et assez inutile, parce qu'à 150 km, il y a une piste toute nouvelle en Autriche, à Innsbruck, qui a plusieurs fois démontré la disponibilité à l'utilisation pendant les Jeux Olympiques. Alors que l'association nationale de bobsleigh, ça compte 50 personnes, on envisage un projet qui déjà commence à couper 500 arbres et intéresser différents hectares avec une artificialisation de ces territoires déjà très frappé par différents phénomènes. Le premier, c'est le tourisme de masse. Le deuxième, c'est la sécheresse, parce qu'en Italie, on a déjà passé les zéros thermiques pour avoir de la neige. Il a déjà dépassé la plusieurs de montagnes, les sommets de plusieurs montagnes. Donc, du coup, on utilise de plus en plus de neige artificielle et ça recueille beaucoup d'eau. Et dans le cas de la piste de bobsleigh, on est en train de parler, si ils arrivent à la compléter, de 22 millions de litres d'eau chaque année, en plus d'une dette que c'est les gouvernements locaux qui vont payer, c'est-à-dire les citoyens qui habitent là-bas. Et du coup, on a lancé un camp le premier week-end de septembre pour justement aller là-bas en direction de chantier et arriver à l'occuper. Ces projets, c'est absolument piétiner la participation démocratique et piétiner aussi la soutenabilité, la soutenance de ce territoire et des gens qui y habitent.
Si j'ai bien compris, en fait, pour vous, c'est maintenant quasi impossible, c'est trop tard d'arrêter les Jeux Olympiques de 2026, parce qu'en France, il y a toujours la lutte contre 2030, hein, qui est juste après. Hein. Mais vous avez l'impression que c'est possible d'éviter, en tout cas, que cette infrastructure-là puisse être... En fait, c'est l'Italie, c'est le prestige d'Italie, j'imagine que c'est pour ça qu'ils veulent absolument que ce soit en Italie.
Nous, on est dans les réseaux non olympiques, les réseaux, il y a un réseau international par rapport aux Jeux olympiques et on est toujours en communication avec eux. Et dans les cas spécifiques de l'Italie, ça a été non plus le fait de l'honneur patriotique, mais c'était vraiment Salvini qui a mis les pieds pour faire cette piste, même s'il y avait plein de pignons envers vers ça, même de comité olympique lui-même, qui finalement ils ont décidé de faire marche arrière et dire au bon, on voit ce projet, mais il faut qu'il soit prêt par mars 2025. Et du coup, si on arrive quand même à arrêter ces projets et à continuer à pousser, à mettre de la pression sur ces projets-là, il y a moyen au moins de démontrer que c'est de n'importe quoi et voir arriver à l'arrêter.
Ok, pour conclure, vous venez ici à l'Interlude en France, donc qu'est-ce que vous imaginez comme participation ou des soulèvements de terre, des Français dans vos luttes en Italie?
On vous invite, hein. on a bien présenté aujourd'hui nos actions et bon, on attend vraiment votre participation ici de la France et bon oui, on va vous accueillir.
J'avais pas entendu qu'il y avait un convoi, une sorte de convoi jusqu'à Venise.
Alors l'idée c'est par rapport à Cortina et en général aussi par rapport à Venise, l'idée c'est de pas seulement de faire une invitation, mais essayer de construire et bâtir ensemble un internationalisme de la défense de l'eau. C'est pour ça qu'on essaie ensemble d'imaginer un convoi qui se trouve en avril à Venise et après en septembre à Cortina, dans les Dolomites, pour générer une masse critique, mais aussi pour générer ensemble des pratiques et un récit et une collaboration à niveau international sur la défense de l'eau, sur l'accès à l'eau et aussi sur l'extractivisme et les projets qui mènent cet extractivisme, soit des bassines, soit de méga infrastructures comme la TAV ou bien la piste de bobsleigh aux Olympiades, parce que les grands événements marchent sur ça.
C'était Contre la dérive logistique et autoroutière, la 6e émission dans la série Quand la Terre se soulève, réalisée par Radio Zinzine. Dans notre prochaine émission, nous parlerons des méga-bassines, cibles bien connues des soulèvements de terre, donc dont le Poitou-Charentes, mais également nous parlerons de deux gigabassines que la multinationale Limagrain voudrait construire dans la région de Clermont-Ferrand. Et à part ça, nous retournerons en Italie pour parler du projet de train à grande vitesse Lyon-Turin avec des participants donc côté français et côté italien. Si vous voulez réécouter ou télécharger cette émission, vous pouvez la retrouver sur le site de Radio Zinzine qui est www.radiozinzine.org. Les musiques qui accompagnent cette émission sont toutes du groupe belge ACDP, à consommer de préférence.